Pour le moment, 8h23 à Paris ce mercredi, et voici ce qui fait la une des journaux français. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Comment le chaos climatique va affecter nos vies?
Oui, c'est le grand titre du Monde, un titre alarmant et pour cause. Une étude inédite, originale et très inquiétante, publiée lundi dans Nature Climate Change, aborde pour la première fois les risques cumulés entraînés par le dérèglement climatique. Et ses conclusions sont sans appel déjà, affirment les auteurs de ce rapport, une vingtaine de chercheurs internationaux essentiellement issus de l'université d'Hawaï. Déjà, nous subissons les foudres du changement climatique et cela va s'aggraver avec les dangers climatiques suivants, des décès ou des maladies provoquées par les inondations, les incendies ou les vagues de chaleur, des dégâts sur l'agriculture, l'élevage ou la pêche après des précipitations ou des sécheresses, des effets néfastes sur la qualité et la quantité d'eau douce, des destructions d'infrastructures à la suite de tempêtes et de la montée des eaux, des pertes économiques et d'emplois, la diminution de la productivité et la crise du tourisme causée par l'acidification des océans et la déforestation. Tout cela sur fond de violence accrue et de migration multipliée.
Alors à quoi ressemblera notre futur sous l'effet d'une crise climatique généralisée, s'interroge Le Monde.
Eh bien, selon les modélisations de cette équipe de chercheurs, si les émissions de gaz à effet de serre continuent sur leur trajectoire actuelle, la moitié de la population mondiale sera soumise à 3 dangers climatiques simultanés à la fin du siècle et jusqu'à 6 pour certaines régions côtières tropicales d'une intensité maximale qui produiront de nouveau des centaines d'effets sur les vies humaines. Si en revanche des actions significatives sont déployées pour limiter la hausse des températures sous le seuil des 2 degrés, comme le prévoit l'accord de Paris, alors les citoyens ne subiraient qu'un seul aléa. Et Le Monde de s'interroger dans son éditorial. Combien faudra-t-il d'études comme celle publiée dans Nature Climate Change et de catastrophes aux effets dévastateurs pour se rendre compte que le coût de l'inaction reste très supérieur à celui de la lutte contre les changements climatiques. Il est pourtant urgent, poursuit Le Monde, qu'émerge enfin une prise de conscience identique à celle qui s'est forgée autour de la menace nucléaire. L'humanité est à l'origine de ce qui peut la détruire. La conférence des nations, la COP24, qui débute bientôt le 2 décembre à Katowice, en Pologne, cette conférence constituera une nouvelle occasion, estime Le Monde, pour tenter de reprendre en main notre destin et éviter l'irrémédiable, une occasion de plus.
À la une également, les gilets jaunes, suite et toujours pas fin.
Radicalisation des gilets jaunes, convergence des luttes ou bien effet d'aubaine, s'interroge Le Parisien. Observateur et analyste peinait à y voir clair hier soir sur l'évolution de ce mouvement hétérogène et non coordonné dont chacun s'accorde sur le caractère inédit. Une chose est sûre, relève le journal, pour le ministère de l'Intérieur, le maintien de l'ordre est extrêmement compliqué à organiser alors que des milliers d'appels à bloquer Paris samedi prochain fleurissent sur les réseaux sociaux, appelant à un acte 2 du mouvement. Christophe Castaner, le tout récent patron de la place Beauvau, aujourd'hui en première ligne, a haussé le ton hier. On a une dérive totale d'une manifestation qui, pour l'essentiel, était bon enfant samedi, a-t-il déclaré sur France 2, pointant une radicalisation du mouvement. En fait, complète l'Union, le gouvernement a choisi de diviser le mouvement, qui est suffisamment large pour qu'il soit aisé d'y trouver des failles et d'y enfoncer un coin. Ainsi, il y a le bon gilet jaune et le mauvais gilet jaune. Le premier est affable, coopère avec les policiers, chante une petite chanson et bloque son prochain au rond-point, juste le temps qu'il faut, pas plus, en s'excusant pour le dérangement. Le mauvais gilet jaune, lui, est intransigeant. Il est radicalisé, dixit Castaner donc, et gueule comme un putois sa rage à tous ceux qui râlent.
Et on revient aux Parisiens qui dénoncent les cynismes de tous bords.
Oui, cynisme des gilets jaunes les plus exaltés, qui n'hésitent plus à casser ou insulter. Cynisme d'un gouvernement qui clairement mise sur le pourrissement du mouvement. Cynisme enfin des leaders de l'opposition, pointe encore Le Parisien, qui souffle sur les braises sans rien proposer, au lieu de jouer avec le feu. Pour régler leur compte politique, les élus du peuple de tous bords seraient bien inspirés de respecter leur mandat, lance le journal, appeler au calme, puis faire pression sur l'exécutif pour que s'ouvrent au Parlement ou ailleurs de vraies discussions sur l'évolution du pouvoir d'achat.
L'affaire Carlos Ghosn suit également, emprisonné au Japon pour fraude fiscale. Le patron de Renault a été remplacé par l'un de ses bras droits, Thierry Bolloré.
Oui, Carlos Ghosn qui est loin d'être tiré d'affaire. Sa garde à vue va durer 10 jours. Il est probablement seul dans sa cellule, pointe le Figaro, et ne peut être assisté d'un avocat pendant pendant les interrogatoires face au juge. Certains s'étonnent de la sévérité de ce traitement, à l'instar de l'avocat Stephen Givens, qui travaille à Tokyo et qui est interrogé ce matin par les Échos. « Si l'on s'en tient, dit-il, aux informations disponibles hier mardi, le parquet lui reproche essentiellement d'avoir sous-estimé les déclarations d'une partie de ses revenus, mais toutes ses rémunérations sont publiques et accessibles. Quel aurait été son intérêt ? S'étonne l'avocat. Qui a fait une erreur ? Les équipes fiscales et légales de Nissan n'auraient pas su trouver elles-mêmes ces informations, affirme-t-il encore. C'est très, très étrange. » Pointe encore donc le conseil qui se demande qui avait intérêt à voir chuter Carlos Ghosn. Alors, il y a sans doute dans cette affaire une forme de règlement de compte, concède la Croix. Certains s'inquiétaient, non sans raison, de la fragilité d'une structure aussi complexe reposant sur un seul homme. Peut-être le dauphin choisi par Carlos Ghosn chez Nissan a-t-il vu là l'occasion de s'emparer du pouvoir, estime le quotidien catholique. Cela, cependant, n'aurait pas pu se produire, relève encore la Croix, si le PDG déchu n'avait pas fait montre d'une cupidité sans mesure, au point de détruire l'extraordinaire œuvre de sa vie et de mettre en péril un immense groupe industriel.
Frédéric Couteau, la revue de presse que vous retrouvez sur RFI.fr.